Bonsoir à tous, il est 15h à Washington, 19h en temps universel, un point sur l'actualité avec Abdourahmane Dia. Les forces armées rwandaises qui interviennent au Mozambique ont affirmé avoir repris le contrôle du port stratégique de Mocimboa da Praia aux militants extrémistes. La ville portuaire de Mocimboa da Praia, un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de 2 ans, a été capturée par les forces de sécurité rwandaises et mozambicaines, ont déclaré les forces de défense rwandaises dans un tweet. Des militaires rwandais ont été déployés en juillet pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans leur lutte contre les djihadistes. Le Soudan a annoncé dimanche le rappel de son ambassadeur en Éthiopie après qu'Addis Abeba a rejeté une initiative soudanaise de médiation pour négocier un cessez-le-feu dans la région du Tigré. Selon Khartoum, le premier ministre Abdallah Hamdok a voulu encourager toutes les parties éthiopiennes à conclure un accord de cessez-le-feu et s'engager dans des pourparlers politiques. Addis Abeba avait affirmé la semaine dernière que le lien de confiance avec certains responsables soudanais avait été fragilisé, accusant l'armée soudanaise d'une incursion sur son territoire. Les relations entre les deux pays souffrent également de l'impasse des négociations sur le grand barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba sur le Nil. Inondations au Soudan après des pluies torrentielles ce week-end. Des milliers d'habitations ont été endommagées et une partie de la capitale, Khartoum, a été submergée. Jeudi, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué que 12 000 personnes avaient été affectées par les intempéries depuis dans 8 des 18 États du Soudan depuis le début de la saison des pluies. Des fortes pluies s'abattent généralement sur le pays de juin à octobre. La Tunisie, qui est confrontée depuis plusieurs mois à une grave crise sanitaire, mène dimanche une campagne de vaccination contre le Covid-19 lors d'une journée porte ouverte, après avoir obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Plus de 300 centres au total devaient accueillir les citoyens de plus de 40 ans pour cette journée décidée par le président Kais Saied. Et l'affluence était forte en milliers de journées selon des correspondants de l'AFP. Le président Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet à la faveur d'un ras-le-bol exacerbé par un pic épidémique meurtrier. Depuis, il a créé une cellule de crise pour gérer la crise sanitaire supervisée par un haut gradé de l'armée. Les talibans ont renforcé ce dimanche leur contrôle sur le nord de l'Afghanistan en s'emparant de 3 capitales provinciales supplémentaires, dont la grande ville de Kunduz. Ils contrôlent maintenant 5 des 34 capitales provinciales. Les forces afghanes semblent incapables de faire face à l'avancée des talibans. La prise de Kunduz constitue le principal succès militaire de ces insurgés depuis le début de leur offensive au mois de mai, lancée à la faveur du retrait des forces internationales qui doit être complètement achevée d'ici le 31 août. L'Arabie Saoudite va permettre aux pèlerins vaccinés contre le coronavirus venant de l'étranger d'effectuer la Umra, le petit pèlerinage musulman, 18 mois après la fermeture des frontières du royaume. Les autorités saoudiennes commenceront à accepter les demandes d'entrée dans le pays à partir de lundi, a précisé l'agence saoudienne officielle. Les pèlerins étrangers désireux de se rendre à la Mecque devront être vaccinés avec un vaccin reconnu par l'Arabie Saoudite et se soumettre aux règles de quarantaine, a ajouté l'agence. Les Jeux olympiques de Tokyo sont terminés ce dimanche après 16 jours d'intense compétition. Passant donc le relais à Paris, qui accueillera les JO en 2024. Et conformément à la tradition, le drapeau olympique a été remis à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les Américains ont remporté au total 113 médailles, dont 39 en or. L'Afrique remporte 37 médailles, dont 11 en or. L'Afrique fait un peu mieux qu'à Rio il y a 5 ans. C'est le Kenya qui remporte la palme en Afrique avec ses 10 médailles, dont 4 en or. Restez en compagnie du programme de VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manirakis en votre compagnie, Lionel Vunanila Gahima sur la mise en onde. Ce soir, nous discutons du rôle de la religion dans la recherche de la paix à travers la pensée et l'engagement de Kamana. Concepteur de la théologie et de la reconstruction en Afrique, Godefroy Mana Kangoudié, dit Kamana, a quitté le monde des humains le 15 juillet à Goma, dans l'est de la RDC. Il était âgé de 67 ans, pasteur de l'église luthérienne, théologien et philosophe africain. Kamana a beaucoup contribué sur la religion, les imaginaires africains et les politiques africaines. Il a œuvré notamment pour la réconciliation des peuples. Pour en parler, Jean-Pierre Lindiro Kabirigi, originaire de la RDC, ancien coordinateur de Paul Institute, un think tank congolais basé à Goma, à l'est du pays. Il est actuellement chercheur senior dans la même organisation et consultant indépendant en développement et construction de la paix. Professeur Kabirigi, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Jean-Claude Géréquet, il est d'origine ivoirienne, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Il est auteur de plus de 15 ouvrages. Professeur Géréquet, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Notre troisième invité, professeur Jean-Pierre Sadi Karegeye, formé en littérature francophone. Il a une formation pluridisciplinaire, littérature francophone, philosophie, linguistique africaine, éthique sociale et théologie. Il a aussi publié et co-dirigé des ouvrages sur plusieurs sujets. Professeur Karegeye, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, il était prévu que Kamana intervienne à une émission sur la religion et l'engagement social. Malheureusement, les dieux sont insondables. Il est parti très tôt. Je commence avec vous, Jean-Pierre Lindiro Kabirigi. Kamana a renoncé à l'enseignement en Occident et s'est installé au Cameroun, au Bénin et au Sénégal. Et enfin, il est allé vivre à Goma. Voudriez-vous nous parler de l'homme très brièvement?
Il sera très difficile de parler de cet homme en quelques minutes, mais je dirais que effectivement, il a laissé ses enseignements en Suisse, en France et ailleurs en Europe. Il est allé en Afrique, il était régulièrement en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal. Et finalement, quand je l'ai connu, il était à Bafoussam, au Cameroun. Il était professeur là-bas. Et quand nous avons eu une discussion, je l'ai vite invité à une rencontre à Paul Institute à Goma. Il est venu, puis il a exprimé son envie de retourner au pays. Et Paul Institute lui a offert ce cadre-là. Il est venu. C'était un homme qui a fait effectivement, comme vous l'avez dit, des études en théologie, en philosophie. Mais il allait au-delà, dans un environnement où pilule des églises du réveil, où il y a des opportunistes qui parlent de la religion. Kamana était un homme très cultivé, un homme qui parlait de la religion, la connaissant de l'intérieur, pour avoir étudié, pour avoir exercé, tant dans l'église catholique que finalement dans l'église protestante. Mais surtout, c'était un grand chercheur, c'était un homme qui était tout le temps en train de chercher la vérité. Et Paul, il nous a apporté beaucoup, donc un peu plus de 10 ans. Il a fait un travail de recherche, d'analyse très fine, et il a fait un merveilleux travail avec les jeunes. Si aujourd'hui on parle de la jeunesse de Goma, qui a joué un grand rôle dans les élections que nous avons eues en 2018, c'est notamment son travail avec les autres collègues, et il sacrifiait ce week-end de samedi pour les jeunes. Ensuite, ses analyses aidaient beaucoup à y voir un peu plus clair dans les relations entre les pays des Grands Lacs, et on regrette beaucoup son départ parce qu'on avait encore besoin de lui.
Professeur Géréquet, Kamana a préfacé vos livres. Comment l'avez-vous connu?
J'ai rencontré Kamana au Cameroun en 2000. Je crois qu'il devait enseigner à l'école de théologie de Bafoussam. Quand j'ai appris qu'il était là, je suis entré en contact avec lui et je lui ai demandé s'il pouvait préfacer mon livre, mon premier livre sur l'engagement politique du clergé catholique africain. Et spontanément, il a accepté. Il a accepté, je lui ai envoyé mon texte. Et je crois peut-être 2 semaines plus tard, il m'a envoyé la préface. Et le livre est sorti, je crois, une année après, en 2001. Et vraiment, j'étais content qu'il ait accepté de m'accompagner dans cette expérience d'écriture. Et puis, je crois, l'année suivante, en 2002, il m'a encouragé à écrire un deuxième livre. Et là, il était au Bénin à Porto-Nouveau. Et je crois qu'il dirigeait une petite maison d'édition qui doit s'appeler, je crois, Séros. Et donc, mon deuxième bouquin, qui s'intitule « Être chrétien en Afrique aujourd'hui », a été publié par cette maison d'édition dirigée par Kamana.
Merci, professeur Jereke. Professeur Karegeye, Kamana a contribué avec un chapitre dans un ouvrage que vous avez édité sur l'extrémisme religieux. Quelle était votre relation avec Kamana et comment vous vous rencontrez?
Je parlerai plutôt de moments, donc au-delà des rencontres personnelles. Oui, c'est vrai, ma première rencontre avec Kamana, c'est en 1993. Je me trouvais à Kinshasa et j'étais étudiant en philosophie et il était invité pour des conférences et nous étions allés le voir, donc lui, comme conférencier. Et quand je parle des moments, donc pour moi, c'était une prise de conscience dans ma rencontre, ou plutôt en voyant Kamana et parler de l'Afrique, parler de l'Afrique à partir de la théologie et de la philosophie. Et dès ce qui m'avait marqué en 1993, c'est de découvrir un intellectuel africain et donc qui utilisait des concepts, mais qui n'était pas dans les nuages, mais plutôt très proche des réalités africaines. Et cela, c'était pour moi très important. Un autre moment, et pour moi important dans ma rencontre avec Kamana, c'est en 1996, deux ans après le génocide, c'était à Nairobi. Et donc j'avais eu beaucoup d'échanges avec lui et sur la question du génocide, mais en rapport avec le discours sur Dieu en Afrique. Donc je voulais savoir comment se fait-il que dans un pays fait de plus de 90% de chrétiens et sous un génocide ait lieu, pourquoi est-ce que la foi n'a pas joué un rôle. Et c'est à ce moment-là, dans cet échange, qu'il avait parlé du Rwanda comme point de départ d'une nouvelle évangélisation. En réalité, c'était comme un tournant, une façon de repenser la théologie africaine à partir de cet événement. Et une partie de nos échanges avec Kamana a été publiée à l'époque dans Hekima Review et puis dans un journal francophone du Rwanda. Et un autre moment pour moi important, c'est en 2012-2013, où Kamana devenait très sensible, et je crois aussi grâce à son travail avec Paul Institute, il devenait très sensible à la question, au discours de la haine dans la région, donc au Congo, Rwanda, Burundi, et devenait excessivement très, très sensible et s'étonnait que des intellectuels ou que des gens ne puissent pas s'investir là-dedans pour lutter contre la haine. Et de là est un projet de lettres, des réflexions avec une vingtaine d'intellectuels. Et je sais que le professeur Jereke faisait partie aussi de ce groupe de réflexion. Donc, je dirais ces trois moments pour moi, au-delà des rencontres, étaient très importants dans ma relation avec Kamana, ou plutôt dans ce que Kamana m'a apporté. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire.
Il met effectivement en garde contre les dérives guerrières du christianisme et de l'islam. En hommage à Kamana, le professeur Benoît Awazi nous a envoyé son témoignage.
Je m'appelle Benoît Awazi Mbambi Kongua. Je suis le président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora, en sigle le Cercle CAD, qui se trouve à Ottawa. En rendant hommage au professeur Kamana, je tiens d'abord à saluer sa mémoire pour l'œuvre immense qu'il nous a laissée, une œuvre pluridisciplinaire. Mais je me concentre sur sa théologie de la reconstruction de l'Afrique. Après avoir pris conscience de la crise à long terme qui caractérise les pays africains, du clavage, la colonisation et l'utopie ou bien la débâcle postcoloniale, Kamana interpelle les Africains aujourd'hui pour qu'ils reconstruisent le continent. Et ils vont le reconstruire par une volonté de réflexion, une volonté de transformation de l'imaginaire et une volonté de fonder des sociétés basées sur la justice, des sociétés basées sur le droit et le respect des différences ethno-tribales et culturelles. L'œuvre de Kamana, comme je l'ai écrit dans mes livres de théologie, restera gravée dans nos mémoires par son insistance sur la reconstruction de l'Afrique, mais pas ses propres fils et filles. L'Afrique doit quitter l'extraversion néocoloniale et compter sur elle-même pour se reconstruire mentalement, intellectuellement, spirituellement et politiquement. Vive Kamana, et son œuvre se poursuit aujourd'hui à travers tous ceux qui liront et interpréteront ses écrits et sa pensée pour les générations actuelles et à venir. Je vous remercie. Professeur Benoît Awazi Mbambi Kongwa.
Alors, parlons de Kamana et la théologie de la reconstruction. Professeur Karegeye, voudriez-vous décortiquer sa pensée et son héritage en rapport avec la foi et l'Afrique?
Oui, disons d'abord que la théologie de Kamana, la théologie de la reconstruction, bon, évidemment qu'il a pensé avec d'autres théologiens anglophones comme Jesse Mugambi et bien d'autres. Donc c'était un groupe de théologiens et que lui alors a développé. Je dirais lui, c'est beaucoup plus les théoriciens et puis quelqu'un qui a essayé de mettre ça en pratique. Et donc la façon dont lui-même présentait ses théologies, la théologie de la reconstruction, c'est qu'il constatait par exemple les apôts et les échecs des pensées, des courants de pensée des intellectuels africains. Et donc en termes de théologie, donc, il y avait par exemple ce qu'on appelait la théologie de l'inculturation, mais qui consistait surtout à reconnaître les bien fondés, la réalité de le bien fondé des cultures africaines, donc et à l'intérieur par exemple du christianisme. Bon, et constater que c'était une théologie qui avait aussi ses limites, hein, la première limite. Donc ça fait vous créer une théologie de l'inculturation, mais qui continue aussi à dépendre des pensées occidentales, c'est-à-dire c'est l'Église qui doit dire oui, cette partie, cette valeur culturelle ou ces valeurs culturelles africaines peuvent être acceptées ou pas. Donc, mais aussi c'était une théologie d'un moment donné, n'est-ce pas, au moment où on disait que l'Afrique n'avait pas de tradition, l'Afrique n'avait pas de culture. Et puis, il a constaté aussi, au niveau de la théologie de la libération, les limites de ce courant qui est venu de l'Amérique latine, mais aussi les qualités. Et donc, d'après Kamana, la théologie de la libération est... Bon, pas après fin, mais surtout avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il fallait réinventer notre théologie. Et c'est là qu'il a commencé à parler de sa théologie de la reconstruction. Et donc, cette théologie, évidemment, qui s'est nourrie aussi des cultures africaines, donc cette théologie de l'inculturation, mais aussi, évidemment, théologie aussi de la libération. Mais ce qui était important pour lui, je dirais, dans cette théologie, un peu de termes, deux choses importantes. Donc, la première, c'est que cette théologie visait l'homme intégral, l'homme africain intégral. C'est-à-dire, s'il faut parler de Dieu à l'Africain, il faut que ce Dieu libère l'Africain de tout point de vue, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan éducatif, c'est-à-dire sur tous les plans possibles. Donc, l'homme intégral. Et deuxième élément pour lui, c'est que d'où est-ce qu'on parlait, d'où est-ce que venait ce discours théologique, d'ailleurs, dans les discours africains. Et donc, pour lui, c'était aussi important de redéfinir notre lieu de pensée. Et c'est là qu'il a travaillé beaucoup sur les imaginaires africains. Et je dirais la théologie de la reconstruction chez Kamana, dans une certaine mesure, c'est aussi une théologie de la décolonisation mentale. Parce que c'est là qu'il parlait beaucoup de l'imaginaire, qu'il faut réinventer, recréer l'imaginaire africain et qu'il essaie de prendre le modèle, par exemple, de l'égyptologie ancienne, hein, les modèles, parce qu'il estime que l'Africain, pour reprendre, restructurer le psychisme africain qui a été atteint, donc le reconstruire, il faut qu'il y ait une réconciliation avec l'histoire africaine, avec le passé africain, c'est important. Mais remarquez, mais toujours tourné vers l'avenir.
Même question à Jereke. En tant que sociologue de la religion, quel est l'héritage, selon vous, de la pensée de Kamana en rapport avec la foi et l'Afrique?
Je voudrais abonder dans le même sens que Jean-Pierre. Je voudrais dire que Kamana fait un constat comme beaucoup d'Africains, à savoir que le le continent africain est mal en point, il est en ruine en certains endroits, il est en faillite. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'est pas afro-pessimiste. Il a un livre qui s'appelle « L'Afrique va-t-elle mourir ?». Kamala ne croit pas à la mort de l'Afrique, même si le continent est en faillite. Il croit que l'Afrique peut renaître. Et le mot, d'ailleurs, renaissance, revient plusieurs fois dans ses publications. Donc, prolonger la réflexion de Jean-Pierre, je voulais dire que Kamala croyait à la renaissance, à la résurrection de l'Afrique, mais à condition que, justement, l'Afrique guérisse de son imaginaire. Un autre mot qui était important chez lui, Kamala trouvait que l'Afrique était malade de son imaginaire, que son imaginaire était pollué, marqué négativement, aussi bien en interne qu'en externe. Tout à l'heure, Jean-Pierre parlait de décolonisation. Effectivement, Kamala avait constaté que beaucoup d'Africains étaient mentalement aliénés, colonisés, parce que, bon, il y a chez ces Africains l'idée que l'ailleurs est toujours meilleur que l'ici, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'Occident, eh bien, c'est ce qui est important, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'il faut prendre. Donc il y a ce complexe d'infériorité qu'il attaque dans ses ouvrages. Donc ça, c'est au niveau de l'extérieur. En interne, l'imaginaire est malade politiquement, économiquement. Par exemple, lorsque la tribu ou l'ethnie est placé au-dessus de la nation. Vous voyez, lorsque les chefs d'État sont idolâtrés, lorsque les leaders oublient qu'ils sont les employés et que le peuple est l'employeur. Vous voyez, donc, je crois que c'est tout ça, là, cet imaginaire pollué, marqué négativement, qui fait que l'Afrique tourne en rond. Et donc, Kamala, à mon avis, il a eu ce courage-là d'attaquer ce problème-là d'imaginaire. Donc, lui, il propose que... il préconise un changement ou une transformation de notre imaginaire. Vous voyez, et alors tout à l'heure, ça m'est sorti de la tête, mais je voulais dire que si j'ai fait appel à lui, si je me suis adressé à lui pour qu'il préface mes ouvrages, c'est parce que j'avais lu quelques livres de lui qui m'avaient fort impressionné, par exemple « Christ d'Afrique », « L'Afrique va-t-elle mourir ?»,« Théologie africaine pour temps de crise ». Je voyais là quelqu'un vraiment qui prenait un peu la relève d'Angèle Bernweng, Ibusi Boulaga, Jean-Marc est là. Et je me suis dit que ce monsieur, vraiment, il fallait le suivre et qu'il avait des choses à apporter à l'Afrique.
Vous venez de parler de « L'Afrique va-t-elle mourir ?», un ouvrage intéressant, un essai par Kamala. Est-ce que Kamala va-t-il mourir, lui qui décrivait la mort comme un transfert des destinées, professeur Kabiligui?
Je ne crois pas qu'il meure. J'ai vu durant les funérailles des jeunes qui se revendiquaient d'être des jeunes Kamala. Donc Kamala est parti, mais Kamala est toujours là. C'est un homme, comme l'ont dit mes prédécesseurs, qui a beaucoup travaillé sur le mental. C'est le mental des Africains. Et il n'a pas prêché par la théorie seulement, il a prêché par la pratique, parce qu'il a quitté son travail en Europe, dans des grandes universités, où il gagnait bien sa vie pour venir travailler en Afrique. Et c'est vrai que les termes imaginaire, travail sur l'imaginaire, était comme un fil rouge dans tout ce qu'il faisait. On le retrouvait toujours dans ses écrits, il répétait ça. Et il a amené un concept important pour le travail que nous faisions, surtout avec les jeunes, c'est sur la transformation sociale. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui sur ça. Et nous avons abouti dans nos analyses au fait que la situation était révoltante chez nous en République démocratique du Congo. Et nous avons dit, on ne peut pas faire autrement, il faut une révolte. Et cette révolte, nous l'avons appelée révolte constructrice, parce que nous étions fondamentalement contre la violence. On a fait des productions là-dessus et beaucoup de jeunes s'en servent aujourd'hui, mais aussi des adultes, des chercheurs. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir de travailler avec lui sur l'interculturalité. Il croyait beaucoup à la culture comme moyen de résolution des conflits et de gestion des conflits, qu'il fallait puiser là-dessus cette culture qui a été bafouée, qui a été méprisée. Et lui, il allait puiser des ressources là-bas. Et tout ce travail-là, c'est abondant, en fait. Et c'était fait dans un esprit de simplicité incroyable. Et son détachement envers le matériel était quelque chose d'extraordinaire. C'était un homme qui était capable de prendre son salaire, d'aider les enfants à étudier, d'aider les pauvres gens qui en avaient besoin. Et parfois, nous avons dû intervenir pour lui dire « Il faudra que tu vives toi-même ». Il était complètement détaché, ce qui était très rare pour un homme de son niveau.
Professeur Jereke, est-ce que Kamala va-t-il mourir?
Non. Non, non, non. On dit souvent que les artistes et les écrivains ne meurent pas parce que leurs bouquins, leurs œuvres leur survivent. Donc il y a ça parce qu'il a écrit beaucoup de livres, hein, de bons livres, mais surtout parce qu'il a formé des gens à Goma, par exemple. Hein, comme disait Jean-Pierre, il a formé des gens, il leur a, comment on dit ça, insufflé un esprit. Et je pense que ces jeunes vont continuer tout le travail qu'il a fait. Alors je voudrais rebondir un peu sur sa simplicité parce que j'ai vécu ça. Hein. En 2002, il y avait un séminaire organisé par l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Et le séminaire portait sur la torture et les cultures africaines. Et c'était à Dakar. Et Kamana avait demandé et obtenu que je figure parmi les conférenciers. Donc, je suis arrivé à Dakar et il a tenu à ce que nous habitions dans le même hôtel. Donc, après les conférences, on se retrouvait, on bavardait. Et j'ai trouvé vraiment qu'il était simple. Il était simple. Et je le disais à mon ami et frère Jean-Pierre Carrier, une autre chose qui m'a marqué chez lui et qui ne mourra pas, c'est que Kamana cherchait vraiment à faire la promotion des jeunes, des plus jeunes, que lui. Moi, je me rappelle en 2012, il m'avait proposé de lui succéder comme secrétaire général de l'AOTA. L'AOTA, c'est l'association œcuménique des théologiens africains. Donc, il était secrétaire de cette association à Yaoundé. Et moi, il m'avait contacté, j'étais à Abidjan, il m'avait contacté pour que je lui succède. Mais je lui avais dit, vraiment, c'est gentil, grand frère, de l'avoir pensé à moi. Mais moi, je suis en train de faire des démarches pour aller aux États-Unis. Et donc, il y avait chez lui ce souci-là de promouvoir les jeunes. Et c'est vraiment africain parce que dans ma culture, moi je suis d'une ethnie qui s'appelle les Dida. Et chez les Dida, quand l'enfant éternue devant un adulte, l'adulte lui dit « dépasse-moi », c'est-à-dire « va plus loin que moi ». Et il y avait ça chez Kamana. Kamana, il était heureux que les jeunes atteignent son niveau, sinon fasse mieux que lui. Ouais, il n'y avait pas de jalousie chez lui. Et moi, donc, je pense que ces choses-là, ça ne meurt pas.
Jean-Pierre, vous l'avez vu recevoir la communion alors qu'il était pasteur protestant. Et ce qu'il vous dit, il dit « Je n'ai pas changé de religion, j'ai changé de lieu de réflexion ». Vous lui demandiez s'il avait changé sa religion. Jean-Pierre, est-ce que ça montre la tolérance de l'homme, sa manière de concevoir la vie au-delà de la religion?
Donc, j'étais étonné de voir un pasteur protestant, c'est un ancien, évidemment, frère Joséphite, recevoir la communion. Je dis « Mais tiens, je pensais que vous étiez protestant ». Il me répond « Non, j'ai pas changé de religion, j'ai changé de lieu de réflexion ». Bon, humour. Mais en même temps, ça montre la façon Kamana, sa conception de la religion. Pour lui, la raison, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il croit donc dans toute religion, il pense qu'il doit y avoir un dialogue avec la raison. Donc ça, c'est un élément très important pour lui. Un deuxième élément, je pourrais dire, par là, quand tout à l'heure, Kabergi parlait de Kamana avec l'idée d'interculturalité. Donc c'est Kamana aussi, vis-à-vis des religions, il aimait ce dialogue, donc interconfession, etc. Donc il espère qu'il pourrait y avoir des dialogues. Et je crois quand il dit « j'ai pas changé de religion », alors qu'il est protestant, comme pour dire, c'est comme on s'est pour dire « j'aurais pu, je suis encore catholique ». N'est-ce pas? Donc je crois que ça c'est important, ça dit, ça montre, et votre émission c'est Dialogue des religions, l'aspect donc il y croit, et puis deuxièmement, quand il parle des lieux de réflexion, c'est-à-dire pour lui le temple c'est le lieu aussi de la réflexion, donc c'est important pour lui, c'est très important, et donc il était contre même les côtés où des religions pouvaient exploiter l'irrationnel, hein, et dans toutes les religions, par exemple, question des guerres, des prières à main qui n'engageaient pas les gens à la vie réelle, la vie sociale, il était contre ça. Donc, il pouvait parler contre les religions traditionnelles, le christianisme et l'islam, quand il voyait, par exemple, qu'il n'y avait pas cette relation à ce qu'il estimait, donc la rationalité.
Kamana était philosophe, théologien et pasteur protestant. Les questions de la paix, du vivre ensemble, du développement sont marquées par son entendement de la religion et sur son apport dans la pensée africaine, que la terre lui soit légère. Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue. dialogue des religions sur Kamana, concepteur de la théologie et de la reconstruction en Afrique. Merci à nos invités, professeur Jean-Pierre Lindivo Kabiligi, professeur Jean-Claude Jéréke et professeur Jean-Pierre Sadi Karegeye. Merci à vous tous.
Merci Eric.
Merci Eric. Merci beaucoup Eric.
Lionel Lunanilagahima a assuré la mise en onde. Eric Manelakis a été à la présentation. Excellente soirée à tous et à la prochaine.